Écoutez, frères et sœurs, la parole de Dieu telle qu'elle peut vous parvenir à la lecture du texte que voici. Je lirai un texte dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 9 à partir du verset 1. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème !» Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé ? De dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Et de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi !» Et cet homme se leva et le suivit. Et comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Et les pharisiens virent cela. Et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Que Dieu bénisse pour nous la lecture de la Bible. Je vous invite à chanter le cantique 216, les trois strophes. Levons-nous et chantons. Alors c'est dans Louange et prière, le petit recueil bleu.
Oh, roi, que vaste autant que la terre, qu'il soit pur autant que les cieux, et que partout, ô notre Père, il rende ton nom glorieux.
Viens, Saint-Esprit, inspire-nous. Fais-nous sentir ta présence, toi dont le feu embrasait les anciens prophètes, toi source de vie et d'amour, viens Saint-Esprit, couvre-nous de tes ailes, divine colombe, viens nous donner ta vie et apaise nos esprits enfiévrés. Si ta présence monte en nos âmes, ô Dieu, nous serons unis à toi. Et tu verras que nous dirons avec les anges les merveilles de ton amour. On entre dans l'hiver, hein. La nuit tombe tôt, on est fatigué, et les fêtes approchent. Si vous allez sur les Champs-Élysées, les chalets de Noël vous vendent tout ce que vous voulez, et les vitrines des Galeries Lafayette et du Printemps sont animées pour les enfants et pour nous, parce que ce sont les fêtes. Vendredi, c'est la vente de l'oratoire. Samedi, vous pourrez acheter tous vos cadeaux. On a toujours célébré les fêtes. Et déjà du temps de Jésus, dans tout l'Empire romain, et à Bethléem, à Capernaum, certainement comme partout, on célébrait les fêtes de fin d'année. C'était les fêtes de la lumière, c'était le soleil invaincu. Invaincu parce que vous savez qu'après le solstice, les jours rallongent, et que ça fait toujours plaisir. Alors à Bethléem, comme à Rome, comme ici, on se répandait dans les rues avec des torches, avec des chandelles, on échangeait des cadeaux, on fêtait les Saturnales, l'âge d'or, l'âge heureux du règne du dieu Saturne, plein de justice, plein de douceur. On ne croyait pas forcément tellement à Saturne, mais on aimait son règne. De même que les gens aujourd'hui ne croient pas forcément tellement à Jésus-Christ, mais ils aiment Noël. Le règne de Saturne, c'était aussi, pour montrer la douceur et pour montrer la justice, quelques jours, jusqu'au, finalement, au début c'était un jour, et puis trois jours, et puis une semaine, jusqu'au 24 décembre. Une inversion sociale. Les maris laissaient parler leurs femmes. Pas trop, mais quand même. Les esclaves étaient servis par leur maître. Pas trop, mais quand même. On voulait montrer que dans le règne de Saturne qu'on aime, tout était plus fraternel et plus heureux. Et je pense que Jésus partageait le rêve de ses contemporains. Je ne crois pas qu'il pensait à Saturne, mais quand il disait « que ton règne vienne », il pensait au règne de Yahvé. Bien sûr, plein de justice et de douceur, en vérité, et d'inversion sociale. Et puis le 25 décembre, alors on disait sans doute le 8e jour avant les calendes de janvier, c'était l'anniversaire de Mitra, Jésus n'était pas son adorateur, bien sûr, mais il pouvait bien participer à sa fête sans adhérer vraiment à tout son sens. Aujourd'hui, bien des juifs et bien des musulmans, bien des athées célèbrent Noël, sa lumière et sa semaine de bonté, sans s'attacher particulièrement à la naissance du Christ. Et Mitra était un dieu qui était loin d'être antipathique. Mitra, c'était le dieu sauveur. Et à Bethléem, à Capernaum, à Jérusalem, comme à Rome, comme en Iran, d'où cela venait, on aimait ce dieu qui permettait la victoire de la vie sur les forces de la mort. On tuait un taureau, on faisait gicler son sang sur les fidèles et on disait « le sang du Dieu vous redonne la vie, vous relève, vous permet de tenir contre les forces du mal. Le sang éternel, disait-on, fait vivre. » Mitra était un dieu invincible qui soutenait les fidèles dans leur lutte contre le mal, contre les démons. Mitra était monté sur le char du soleil. C'était le soleil de justice. Je pense que cette ambiance des fêtes de l'Empire romain devait plaire à tout le monde, comme aujourd'hui, plaire à Jésus. Je crois que Jésus devait aimer ces fêtes du solstice d'hiver. Et je pense que s'il avait su que des siècles après, on célébrerait à ce moment-là sa fête, son anniversaire, il aurait sans doute été heureux d'être parmi nous à cette occasion. Et j'imagine Jésus apportant certainement son offrande aux marmites de l'armée du salut et au secours populaire, au secours catholique, à l'entraide protestante, au restaurant du cœur de Coluche. Mais tout de même, quand Matthieu nous raconte, comme les autres évangélistes aussi, ces deux textes que j'ai lus comme deux jalons plantés dans l'itinéraire que nous suivons et qui nous font certainement avancer d'un pas, d'un grand pas sur la route ébauchée par Mitra, Saturne, le soleil invaincu. On dépasse la paix et la bonne volonté des Saturnales. On contourne les exigences doctrinales et morales des pharisiens. Se paralyser, dont Marc et Luc disent on l'avait descendu du toit, Matthieu ne le dit pas. Se paralyser qui n'avait rien demandé, qui n'avait rien exprimé, qui était là. Ses amis pensaient peut-être que Jésus allait le guérir, puisqu'il guérissait. Se paralyser à qui Jésus adresse la parole en disant « Prends courage, tes péchés sont pardonnés. On ne sait pas quels étaient ses péchés. Ça devait être particulièrement sérieux pour que ce soit la première chose dont Jésus lui parle. Mais les pharisiens disent, cet homme blasphème, on ne pardonne pas comme ça. On ne pardonne pas un homme qui ne s'est pas repenti, qui n'a rien demandé. D'ailleurs, vous savez bien, dans les synagogues, on pardonne le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. On ne pardonne pas n'importe quand. Et Jésus, oui. Et cet homme, culpabilisé sans doute, se trouve ainsi déculpabilisé. Et d'ailleurs, pour montrer que c'est vrai, Jésus lui dit de se lever et de marcher. Un paralysé ne peut pas se lever et marcher. Un homme coupable ne peut pas être pardonné comme ça. Eh bien, dit Matthieu, cet homme est déculpabilisé et cet homme se lève et marche. Et je lui dis, tu vas dans ta maison, tu restes pas là. Tu vas vivre ta vie maintenant, déculpabilisé et sur tes jambes, un homme nouveau. Et puis on va dans la maison. Marc et Luc disent, c'est dans la maison du collecteur d'impôts que Jésus vient d'appeler. Matthieu ne dit pas cela, il dit la maison. Quelle maison ? La vôtre peut-être, ou la mienne, qui sait. Et dans la maison où il y a ce collecteur d'impôts, horriblement coupable lui aussi, au lieu d'œuvrer pour le royaume de Dieu, il travaillait, il collaborait avec l'horrible empire de César que l'on détestait, qui était d'une cruauté inacceptable. C'était vraiment un homme qui faisait ce qu'il ne fallait pas faire. Et Jésus le prend comme disciple. Il était sûrement là, dans la maison. Et dans la maison, il y avait aussi les autres collecteurs d'impôts qui étaient venus. Et les pécheurs, qui étaient là. Et Jésus et les disciples mangeaient avec eux. Pourquoi mange-t-il avec ces gens-là ? Parce que c'est pas seulement le règne de Saturne avec l'inversion sociale, ça n'est pas seulement le sang vivifiant de Mitra qui lutte contre le mal et contre les démons, c'est vraiment quelque chose de plus encore, de mieux, une nouveauté. Et Matthieu a cette phrase étrange quand même. La foule loue à Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Le pouvoir d'être déculpabilisé, le pouvoir de se lever et de marcher quand on ne peut pas se lever ni marcher, le pouvoir de venir avec Jésus quand on n'est qu'un de ses collaborateurs des Romains. Qu'y a-t-il encore dans la maison ? Mais en plus du collaborateur d'impôts, moi je pense, il y avait le centurion à qui Jésus venait, dit le texte, de guérir son serviteur, sans poser de questions. Centurion romain, officier de l'armée d'occupation, avec les crucifixions et les tortures, tout ça. Ce centurion à qui Jésus n'a rien demandé, n'a pas dit « Mais est-ce que tu veux bien abandonner Zeus ? Abandonner Mitra ?» Les officiers dans l'armée romaine étaient pour beaucoup d'entre eux fidèles du dieu Mitra dont je parlais. Et Jésus ne lui dit pas d'abandonner quoi que ce soit. Il lui guérit son serviteur auquel il était très attaché. Comme ça. Parce que, voyez-vous, c'est le monde nouveau que Jésus fait arriver dans les cœurs de ceux qui veulent bien. Il y avait peut-être aussi la femme syrienne qui adorait Baal. Il ne faut pas adorer Baal. Elle le faisait certainement. Et Jésus apporte la guérison à sa fille comme elle le demandait. Jésus ne demande rien et il fait monter dans les cœurs un souffle nouveau, plus humain, de vie. Jésus ne demande rien, mais rappelez-vous quand il est né, l'évangéliste Matthieu nous dit que les mages, des astrologues venus d'Irak ou d'Iran, enfin de ces pays dont je ne dis rien, eh bien Joseph et Marie ont accepté leur don sans poser aucune question. Et lorsque ces mages venus d'Orient ont eu l'audace de se prosterner devant le roi des Juifs, Joseph et Marie n'ont rien dit. Jésus est né dans cette famille d'ouverture. Et maintenant, ce souffle de vie, ce dynamisme créateur, ne pose pas de questions, mais pardonne celui qui ne devait pas être pardonné avant Kippour, le fait marcher et accepte ce collaborateur des Romains. Au fond, si nous lisons bien ces deux jalons qui sont placés au début du ministère de Jésus, on voit que Dieu donne aux hommes, c'est ce que Jésus nous révèle, le pouvoir, un certain pouvoir admirable, le pouvoir de dépasser l'ouverture d'esprit des pharisiens et le règne de Saturne ou de Mitra. Il nous libère l'esprit de nos tabous religieux, sociaux. Il nous permet de penser au-delà des limites de nos représentations habituelles, de notre éducation. Il donne un champ nouveau à notre esprit d'investigation, nos habitudes, notre religion. Et il est vrai que ce ne sont pas les règles des pharisiens, ces règles de pureté, de morale stricte, ce ne sont pas elles qui nous aident à vivre quand l'hiver se fait pesant et quand l'obscurité nous envahit. Ce n'est pas notre appartenance religieuse, ce n'est pas notre idéologie, excellente certainement, qui nous aide à tenir le coup quand on ne peut plus se lever et marcher. Et Dieu, tel que Jésus nous le fait connaître, donne aux hommes un tel pouvoir. Et si Jésus est ainsi ouvert à ce paralysé, à ce collecteur d'impôts, à ce centurion, à cette femme adoratrice de Baal, c'est parce qu'il est fort de cette présence de Dieu qui vivifie bien plus que le sang éternel du taureau de Mitra. C'est parce que les lois de Moïse, qui étaient excellentes, qui ont été raidies et sclérosées par les pharisiens qui les ont rendues inhumaines, s'effacent devant ce souffle libre que Dieu fait souffler, comme Jésus nous l'enseigne. Les dogmes, les lois de Moïse, les traditions religieuses sont les conclusions, la clé de voûte des réflexions de ceux qui ont aimé Dieu avant nous, c'est très bien. Mais à leur attacher notre foi et notre espérance pour la vie, nous nous retrouvons non pas aidés, non pas soutenus, non pas renouvelés, mais nous risquons de nous trouver enfermés dans notre bulle et excluant les autres. Quand on identifie nos doctrines et nos lois morales à la vérité divine, voyez-vous ce jalon que Matthieu nous dit, là, dans son chapitre 9, en nous montrant que Jésus est allé dans les maisons, la maison, dans les maisons où il n'aurait pas dû aller. Cela nous montre cette présence divine qui monte en nous et qui nous ouvre au monde, à tous ceux qui, peut-être comme nous, ne sont pas ce qu'il aurait fallu, en nous libérant de nos principes et de nos peurs. Jésus nous montre, et c'est cela la couleur particulière qu'il donne au fêtes de fin d'année, c'est cela le plus qu'il ajoute au règne de Saturne, de Mitra et du Soleil invincible, que Dieu est le Père de tous les hommes et qu'il n'y a finalement qu'un seul commandement, c'est aimer ce Dieu dont le grand dessein de créativité et d'amour relève tous les hommes dont il est le Père sans condition. Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. La fête de Noël n'est pas dans les églises, elle se vit dans les rues, dans les maisons. Va dans ta maison maintenant que tu es déculpabilisé et que tu marches. L'amour de Dieu. Bon, un professeur de théologie de Montpellier a dit, à juste titre, il me semble, arrêtez d'employer tout le temps ce mot d'amour parce qu'il est galvaudé, c'est de la guimauve gluante finalement qui ne veut plus rien dire. Trouvez d'autres mots pour caractériser ce que Jésus nous apprend de Dieu et de son souffle créateur. Dites respect pour les hommes, dites fraternité, dites empathie. Empathie, c'est mieux que sympathie. Je vais vous dire pourquoi. Dans sympathie, il y a un peu l'idée que l'on met du sentiment et de l'émotion. Or, quand on pense aux gens avec lesquels Jésus mangeait dans la maison, on n'a pas beaucoup de sympathie pour eux. Mais on peut avoir de l'empathie, c'est-à-dire participer à leur vie, à leurs espoirs, à leurs souffrances, à leurs angoisses, à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils vivent. L'empathie, c'est bien. Si vous avez une empathie niveau zéro, c'est que vous êtes psychopathe. C'est que vous êtes psychorigide. C'est que vous êtes narcissique, que vous regardez dans la glace. Il faut être empathique niveau 6. C'est, dit-on, le maximum. C'est comprendre que l'autre, il est aimé de Dieu et qu'en lui, le dynamisme créateur et apaisant de Dieu monte, comme en vous, comme en moi. Alors nous célébrons les fêtes de Noël avec les musulmans, avec les juifs, avec les athées, avec tous les gens qui sur les Champs-Élysées vont acheter du vin chaud, des frites et des fringues. Au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous pensons, nous vivons dans un monde dont Jésus nous montre bien qu'il est animé, qu'il est travaillé, qu'il est apaisé par la présence divine, fraternelle et humaine, Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Et nous célébrons une marche en avant, une entreprise, une mobilisation pour que le règne de Dieu vienne en vérité. Va dans ta maison, même si elle est mal fréquentée, et puis rayonne là le pouvoir que Dieu a donné aux hommes. Amen. Ce n'est plus